Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Anatole Prévost-Paradol, né en 1829 et qui se suicide en 1870, académicien et auteur de La France Nouvelle, reste un illustre inconnu. Les étudiants de Sciences Po connaissent sa formule. La Révolution, donc de 1789, a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement. Ou, cette autre formule, ne pas renoncer à une idée sous prétexte qu'elle n'est pas nouvelle. Mais son maître ouvrage, La France Nouvelle, donc de 1868, pose ou annonce les fondements de la démocratie libérale, l'expression est de lui, qui s'installera en France avec la Troisième République. Prophète de malheur contre le Second Empire, il le fut. Prophète du libéralisme, pour l'avènement d'une sorte de monarchie anglaise à la française, il le fut. C'est pourquoi nous sommes heureux de voir republier donc La France Nouvelle chez Perrin, dans la collection Les Mémorables, et sommes heureux de recevoir Gabriel Debreuil, historien, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, et chancelier de l'Institut, et qui a donné donc une préface à ce livre. Gabriel Debreuil, bonjour.
Bonjour.
Donc, faut-il préciser que vous avez été haut fonctionnaire, membre de nombreux cabinets ministériels, que vous avez présidé différents instituts ou institutions de l'audiovisuel public, le RTF, Radio France, l'INA, que vous êtes historien et en particulier historien de l'orléanisme, d'où votre dernier livre paru chez Fayard, La Monarchie de Juillet. Et ajoutons que le libéralisme est pour vous, en quelque sorte, une affaire de famille avec, en particulier, Victor Debreuil, donc ministre de Louis-Philippe, et Albert Debreuil, son fils, chef de gouvernement en 1873 et qui fut pendant longtemps chef de file des orléanistes. Tous deux furent, comme vous, membres de l'Académie française. Alors, débutons par une question plus personnelle. Avant que de regarder plus avant, un, la vie d'Anatole Prévost-Paradol, et deuxièmement, ce livre, La France Nouvelle, pouvez-vous nous dire, au regard de l'expérience qui est la vôtre, au service de l'État, qui souffre, comme le disait Alain Perfit, votre prédécesseur à l'Académie française, d'un mal français, donc d'une forme d'impuissance de l'État par rapport à la société, au regard donc de cette tradition libérale de votre famille, comment avez-vous aujourd'hui lu cette œuvre de Prévost-Paradol qui a plus de 140 ans? Considérez-vous que la France a fini par trouver le gouvernement qu'elle a cherché depuis la Révolution française ou qu'elle est toujours à la recherche de ce dit gouvernement?
Oui, je dirais lu et relu, parce que à Sciences Politiques, on disait déjà La France Nouvelle, c'est un des témoignages du mouvement libéral sous le Second Empire. Il y en a d'autres livres de la même époque qui ont témoigné des mêmes aspirations, des mêmes projets, du même idéal. Il s'exprime très fermement à une certaine époque. Donc j'ai été très heureux lorsque Perrin m'a proposé de présenter ce livre et de présenter l'auteur, ce qui me paraît aussi intéressant que le livre lui-même, parce que le livre, on le connaît, enfin, il figure parmi les textes politiques intéressants du second 19e siècle. L'auteur, on ne le connaît pas beaucoup. Mais si je peux me permettre de relever une chose que vous avez dite, le mal français, tel qu'Alain Perfit l'a analysé, n'est certes pas guéri, mais il ne consiste pas en une impuissance de l'État. Il consiste au contraire en un excès de puissance de l'État et en une inefficacité de cet appareil de l'État qui étouffe et, en quelque sorte, paralyse la société. C'est cela le mal français. Donc pas du tout un manque d'étatisme, c'est un excès d'étatisme.
C'est l'État, voilà.
Et ça, nous souffrons toujours de ce mal-là. Et c'est un des thèmes que développe Prévost-Paradol dans son livre. Tout le mouvement libéral du 19e siècle a eu ce thème d'un État léger, d'un État libéral, d'un État qui laisse la société vivre et se développer et qui crée les meilleures conditions possibles pour le progrès. Le progrès, n'est-ce pas, c'est ça l'objectif général, le progrès dans les libertés, le progrès économique, le progrès de l'instruction, du développement de l'individualisme, de la personne humaine. C'est le contraire d'un étatisme, n'est-ce pas? Et On peut dire aussi que dans ce grand mouvement, l'Angleterre a joué un très grand rôle. Tous les libéraux du XIXe siècle posent le modèle de l'évolution politique anglaise comme un véritable modèle. Pas tellement exactement les données du régime politique et social anglais, mais le type d'évolution, le style, qui est une évolution très pragmatique, très progressive, sans secousse, et qui finalement aboutit à un régime de plus en plus libéral, de plus en plus équilibré, parlementaire, qui peut apparaître comme un modèle. Si on compare l'évolution de l'Angleterre à l'évolution de la France pendant cette période, justement le XIXe siècle, eh bien, les contrastes sont une extraordinaire violence, puisque notre XIXe siècle n'a été fait que de secousses violentes qui n'ont pas fait progresser l'idéal du libéralisme.
Mmh. Alors venons-en, parce que vous en avez parlé, à sa vie, qui effectivement n'est pas très connue, et son livre, donc La France Nouvelle, est connu pour ceux qui effectivement se sont intéressés au sujet, mais enfin n'est pas connu d'un large public et n'a pas connu la notoriété qu'ont pu connaître depuis quelque temps, par exemple, les livres de Tocqueville, enfin pour prendre des illustres prédécesseurs comme lui. Alors, donc sa vie, il est né en 1829 et appartient donc à une lignée un peu étrange, enfin étrange, hein, il se rattache à la lignée donc des Halévy parce que sa mère, donc Lucinde Paradol, était actrice à la Comédie-Française et son père naturel, voilà, était donc Léon Halévy, donc qui a eu comme autre enfant Ludovic Halévy. Donc comment s'est passée dans sa vie cette entrée par la petite porte, si je puis me permettre l'expression, dans la famille Halévy?
Oui, il faut s'arrêter un instant sur le personnage de Prévost-Paradol, parce que lui, alors, il n'est vraiment pas connu, contrairement aux autres. Mais il y en a, pour citer un autre exemple du libéralisme, qui a publié aussi un grand livre à peu près au même moment, il y a Édouard Laboulaye, par exemple. Qui connaît Édouard Laboulaye aujourd'hui? Personne. Et cependant, ça a été un auteur considérable de la même veine du parlementarisme et du libéralisme politique au XIXe siècle. Donc c'est une école, finalement, qui n'a pas percé en France, qui existe, qui intellectuellement est très vivante et même fournit des modèles constamment, mais qui ne perce pas facilement dans les réalisations. Mais enfin, à la fin, on dira tout de même que la plupart des idées de Prévost-Paradol sont devenues la réalité en France. Mmh. Heureusement, n'est-ce pas, nous sommes dans un régime parlementaire et libéral. Mais l'école n'est pas très reconnue. Alors, le pauvre Prévost-Paradol, c'est un destin, n'est-ce pas?
Oui.
C'est un destin très 19e siècle. Et je dirais même très second 19e siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas un héros romantique comme dans le premier 19e siècle, n'est-ce pas? C'est au fond un homme mal à l'aise, pas heureux, ni dans son environnement, ni dans son époque. Alors voilà, il est toujours un peu à côté. Donc vous avez évoqué son origine. Évidemment, c'est un enfant naturel, mais un enfant naturel, finalement, ayant des relations étroites avec sa famille naturelle, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Donc, finalement, son père réel se fait assez discret dans sa vie, et il est, au contraire, pas accueilli, mais enfin, il est reconnu dans sa famille naturelle, qui est la famille des Halévy, et il est en relation étroite, même, oui, étroite et très cordial avec les membres de la famille. Alors, est-ce qu'il faut en tirer une conséquence sociale sur la filiation naturelle? Non, je ne crois pas, c'est un cas particulier. Il trouve un intérêt intellectuel et peut-être de société à être proche de la famille Halévy qui brille de beaucoup d'éclat dans ce 19e siècle, ce qui continuera jusqu'au 20e siècle. Mais ça crée en tout cas un personnage pas très à l'aise, encore que il a réussi très brillamment. Donc, c'est un mélange. Faisons un petit portrait.
Oui, je vous en prie.
Jeune, très brillant, intellectuellement, remarquablement brillant.
Donc, normalien.
Normal supérieur.
Major de sa promotion.
Lauréat du concours général. À l'époque, c'était très important, le concours général. Ça l'est un peu moins maintenant, mais ça sélectionnait les meilleurs d'une génération pendant très longtemps. Et entré à Normal supérieur, devenu le major de sa promotion. Puis, sa promotion n'a pas eu de chance, elle se situait entre 1949, 50, 51, je crois.
51, oui.
Et alors, elle n'a pas terminé sa scolarité, parce que la promotion était assez agitée politiquement, il se déroulait des événements très importants, et au moment du coup d'État de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, le coup d'État qui allait brusquer la Constitution pour lui permettre de se représenter alors que la Constitution ne le permettait pas, les élèves de l'École normale supérieure ont pris position contre, en faveur de l'Assemblée, et contre le président et le leader de cette génération, de cette promotion de Normalien, c'était Prévost-Paradol. Alors, le pouvoir a sévi et l'école a été, je crois, fermée. En tout cas, la promotion n'a pas terminé sa scolarité. Et Prévost-Paradol, n'étant pas ancien de l'école normale supérieure, mais normalien tout de même, certainement, et il a finalement été admis à enseigner progressivement. Il est devenu professeur d'université et il a été un brillant professeur de lettres dans le Sud-Ouest. Donc, son début dans l'existence est un début très marqué par une protestation contre la brutalité, contre l'autoritarisme de Louis-Napoléon Bonaparte et par une opposition contre le Second Empire. Alors, à partir de là, il est professeur, il publie des essais littéraires et il découvre le journalisme et il est finalement un excellent journaliste, un merveilleux journaliste, un des grands journalistes du 19e siècle. Quand on lit ses ouvrages, tous ses articles ont été publiés, il y a 4 volumes de chroniques politiques, d'éditoriaux. Il a collaboré au Journal des débats, qui était le grand journal politique de l'époque. Il a collaboré à la Revue des Deux Mondes, la grande revue politique aussi de l'époque, par des articles très brillants, des articles très polémiques. Il avait une plume extraordinairement vive, quelquefois assassine même, mais subtile, drôle et redoutable, un redoutable bretteur, et qui s'épanouissait dans ce combat d'idées, combat d'histoire, combat politique. Il a eu une très grande réputation comme journaliste politique, un modèle, on pourrait dire, du journalisme politique de cette époque-là.
Enfin, politique et littéraire, parce qu'il s'en prend aussi à Victorien Sardou, à Émile Augier.
Parfaitement, oui, oui. Sa tendance est politique, mais il est tenté par la littérature, et comme il est ambitieux, il veut avoir plusieurs cordes à son arc. Il est très ambitieux, finalement. Il n'est pas satisfait de sa situation de chroniqueur. Il a une très confortable situation de journaliste, appointé régulièrement, n'est-ce pas ? C'était rare à l'époque. Et les journaux, finalement, il n'a aucune difficulté à se placer dans tel ou tel journal. Il est recherché, mais ça ne lui suffit pas. Il souhaite plus de renommée, plus de reconnaissance, et il se présente aux élections. Là, alors, il fait un choix.
En 1863, oui. Il se présente pour la première fois.
Il fait un choix vraiment politique, qui est de se présenter en opposant à l'Empire. Il a un peu de mal à trouver sa circonscription, il n'est pas très adroit, il se trompe, il fait des erreurs évidentes. Il faut dire que ce n'était pas facile d'être candidat de l'opposition sous le Second Empire, et il n'y avait pas beaucoup d'élus. Eh bien, il échoue en 1863, et gravement d'ailleurs, par des erreurs de campagne, qui étaient vraiment des erreurs de tactique politique et d'inadaptation avec la circonscription qu'il avait choisie. Donc, c'est un échec. Et il se présente une seconde fois, quelques années plus tard, à la suite d'une vacance partielle.
À Nantes.
Et à Nantes, là encore, il fait une erreur de circonscription.
Il se présente, il se présente pas.
Il se présente pas. Il se retire devant un candidat de l'opposition mieux placé. Puis 15 jours après, il décide qu'il est tout de même candidat. Enfin, voilà, on voit très bien que l'homme n'est pas complètement à l'aise, n'est-ce pas, dans ce monde difficile. Et là aussi, la seconde fois, il est battu, gravement d'ailleurs. Dans les deux cas, il fait passer le candidat de l'Empire, parce que sa candidature est considérée comme de diversion, et il est le battu deux fois de ces élections. Il en souffre beaucoup, et voilà, comment rebondir après de tels échecs lorsqu'on est un jeune ambitieux ? Tout ça lui arrive à moins de 40 ans, n'est-ce pas ? Et alors, jeune ambitieux, Rastignac, certainement, d'une certaine manière, c'est un personnage balzacien, même si c'est pas un héros romantique, c'est un balzacien, certainement. Eh bien, par la littérature, et il publie alors un beau livre de critique littéraire du XVIIe siècle, enfin largement.
Étude donc sur les moralistes français en 1865.
Un beau livre, peut-être son livre le plus écrit, disons, le plus. Et ce livre, il le conçoit comme une préparation à sa candidature à l'Académie française. Parce qu'enfin, il faut le dire, nous parlons d'un confrère de l'Académie française. Pas des plus célèbres, mais tout de même qui a eu une élection fracassante. Et finalement, il se présente. Et la première fois, alors qu'il a des candidats considérables contre lui...
Jules Janin, en particulier.
Dont voilà. Jules Janin, qui est un personnage considérable, qui sera élu après, d'ailleurs. Et il bat Jules Janin, il est élu à la première candidature, et tout étonné et enivré de ce succès, il devient un personnage alors plus reconnu, certainement, journaliste encore plus recherché et une vraie autorité. Et ayant vis-à-vis du Second Empire, qui lui-même évolue, une attitude tout en nuances, très subtile, une attitude personnelle qui n'est pas exactement celle des journaux dans lesquels il écrit. Donc le personnage qui se campe une individualité, c'est pas facile, n'est-ce pas, de se camper dans une individualité propre mais qui n'appartient à aucun parti.
Arrêtons une seconde, si vous le voulez bien, sur l'Académie française. Donc il est élu et vous dites dans votre préface que l'Académie française est le refuge de l'opposition à l'Empire. Et René Raymond, donc, dans son Histoire des droites françaises, précise que l'Institut, de façon générale, après le coup d'État de Napoléon, est devenu, dit-il, un salon orléaniste, hein, et ce, pour un demi-siècle. Donc, effectivement, il retrouve à l'Académie française tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont représenté les diverses voies du libéralisme, de l'orléanisme, Mgr Dupanloup, Victor de Breuil, Albert de Breuil, voilà, enfin, Lacordaire, Tocqueville, enfin, tout ça étant...
Cuvillier-Fleury, oui, oui.
Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être l'idée, derrière la reconnaissance de ses mérites littéraires, de rejoindre un cercle politique orléaniste qui, effectivement, aime bien se retrouver entre soi à l'Académie française.
Oui, cela est parfaitement vrai. Le phénomène a souvent été évoqué et il se déroule en plusieurs vagues, en plusieurs générations. Tout d'abord, sous la monarchie de Juillet, sont élus des gens extrêmement remarquables qui sont les ténors de la société politique et historique française, dont le ténor principal est Guizot, élu en 1836, puis Thiers, je crois, Thiers a été élu avant Guizot, grand historien et grand personnage politique aussi de cette époque. Alors, il y a une sorte de prépondérance des grands personnages de la monarchie de Juillet à l'Académie française, et par le fait même de sa permanence, sa pérennité, cette prépondérance continue à peser sous l'Empire. Si bien que, un peu par la force des choses, sous le Second Empire, alors que toutes les institutions politiques sont dominées par les partisans du Second Empire, régime autoritaire, non parlementaire, n'est-ce pas ? L'Académie française se trouve dans une situation de parlement virtuel, de grands ténors du parlementarisme, mais qui n'ont pas leur place dans l'échiquier politique. Donc, non pas que l'Académie française fasse de la politique, mais sa composition révèle une autre société que celle du Second Empire, qui est dans l'opposition, mais enfin une opposition très intellectuelle, pas du tout polémiste ni agressive à l'égard du régime en place. Mais enfin, l'Académie française ne se laisse pas gagner par le monde impérial. Et on le voit à chaque élection. À chaque élection, il y a un candidat qui est présenté un peu comme le candidat de l'Empire, comme dans les élections politiques, où il y a le candidat officiel. Et pratiquement à chaque fois, sauf quelques exceptions, la majorité de l'Académie française préfère un candidat venu d'une autre partie de l'horizon politique et qui n'est pas favorable au Second Empire. Et peut-être ça a joué en faveur de Prévost Paradol pour son élection, c'est incontestable.
Parce que certains ont trouvé qu'effectivement, il n'avait pas non plus à ce moment-là, parce que la France nouvelle, il publiera 3 ans après, donc n'avait pas à ce moment-là une œuvre particulièrement considérable, et que donc peut-être que ce parti libéral, orléaniste, souhaitait renforcer ce ministère de la parole qui était le sien au sein de l'Académie française et de l'Institut.
Parfaitement. Un autre paradoxe de cette élection, c'est que les questions, disons, religieuses, d'opinion religieuse, sont subtiles mais relativement présentes dans ces élections, et que Prévost Paradol n'est pas un catholique pratiquant, il serait plutôt de tendance protestante, mais il n'est pas protestant non plus, mais donc il aurait une religion personnelle, c'est pas du tout un athée, mais enfin une religion plus protestante que catholique. Et en tout cas, c'est un anticlérical tel qu'on peut concevoir l'Église établie, officielle en France pendant cette partie encore du XIXe siècle. La puissance de l'Église qui a été rétablie par la Restauration extrêmement forte, ébranlée par la Révolution de 1830, mais rétablie finalement par Louis-Philippe, reste une institution extraordinairement solide et même ancrée dans le monde général, dans le monde politique, avec des possibilités d'influence considérables. Alors, cela heurte le libéralisme et le parlementarisme de Prévost Paradol, qui est non pas un athée, mais un anticlérical.
Et un antipapiste aussi, un peu.
Et un antipapiste. Et il se trouve que dans cette campagne académique, les positions que prend Prévost-Paradol à l'égard des problèmes très aigus, d'ailleurs, de politique étrangère à l'égard du Vatican et à l'égard du pouvoir temporel du pape, lui amène l'appui des catholiques, et en particulier de Monseigneur Dupanloup, qui joue un rôle extrêmement important à l'époque.
Qui est son parrain. Enfin,
qui est son parrain à l'Académie.
Voilà.
C'est un peu insolite, n'est-ce pas ? Mais c'est le cas, et on lui reproche beaucoup d'ailleurs d'avoir été élu grâce à l'appui du parti catholique au sein de l'Académie. Son élection est une surprise d'ailleurs. Jules Janin, son compétiteur, était un personnage considérable, mais appartenant plutôt au monde de l'Empire. Et donc, voilà, et ces deux facteurs font qu'il est élu un peu par surprise, mais en tout cas brillamment élu. Et le personnage est un peu nouveau à l'époque. Et donc, sa trajectoire va aussi se modifier. Il observe l'évolution de l'Empire, et l'Empire lui-même évolue vers plus de libéralisme.
Alors venons-en justement à la fin, parce qu'il est mort, il avait à peine 40 ans.
L'épisode final mérite d'être...
Voilà. Et alors surtout, donc effectivement, vous avez rappelé, en 1869, il se représente à députation à Nantes, échec cuisant. Donc ça, voilà, c'est son destin politique au sens d'une élection est terminée. Et effectivement, il y a ce moment un peu paradoxal, et vous allez nous rappeler ces circonstances-là, de la nomination d'Émile Ollivier, donc à ce qui va devenir la fin de l'Empire. Donc le 27 décembre 1869, il est nommé et il forme son gouvernement, Émile Ollivier. Alors il faut citer la date exacte parce que comme l'année 1870 va être relativement chargée, donc il forme ce gouvernement le 2 janvier 1870. Et là, donc Prévost-Paradol, qui est un opposant de longue date, qui effectivement a toujours été contre l'Empire, finit par se rallier plus ou moins à cette promesse libérale de l'Empire.
Oui, l'évolution est un petit peu plus continue et ancienne que cela, parce que l'évolution de l'Empire vers un régime un peu plus libéral date de 1863 et quelques, et des mesures progressives sont prises pour assouplir le régime. Alors, Prévost-Paradol a une attitude qui n'est pas celle des orléanistes en général, qui consiste à saluer chacune de ces évolutions avec ce thème qui lui convient assez bien de polémiste efficace, disant « Soyons honnêtes, les mesures prises par le gouvernement ont été demandées par nous. Nos idées sont écoutées par le pouvoir. Eh bien, au lieu de le condamner, le rejeter en bloc, il faut lui demander davantage et donc entrer dans le système de l'ouverture, du ralliement au libéralisme de l'Empire. » Alors, l'épisode le plus important, c'est en effet le choix par Napoléon III d'un premier ministre qu'on peut considérer comme libéral, qui est Émile Ollivier, et de l'établissement d'un régime qui se rapproche du régime parlementaire. N'est-ce pas ? C'est une grande évolution, se rapproche du régime parlementaire. Et là, Prévost-Paradol a cette attitude assez nette de se séparer, par exemple, de Thiers, qui ne se rallie jamais, ni du journal des débats, qui ne se rallie jamais, et de se déclarer favorable à cette nouvelle orientation du régime.
Par orgueil un peu aussi, parce que comme vous le dites, effectivement, il donne le sentiment où il laisse croire que l'évolution du régime est liée un peu à son propre...
Peut-être aussi par fascination pour le personnage d'Émile Ollivier.
Oui.
C'est une chose bien oubliée, n'est-ce pas, de nos jours. Mais l'apparition d'Émile Ollivier dans le spectre politique français a eu, à cette époque-là, il était bien tard, n'est-ce pas, janvier 70, enfin, disons 69-70, a eu une grande importance. Un des signes de cette importance, c'est que Émile Ollivier est élu à l'Académie française en 1870. Entre le moment où il est nommé chef du gouvernement et la chute de l'Empire, il est élu à l'Académie française, où il retrouve Prévost-Paradol. Donc Prévost-Paradol voudrait que ce rapprochement se concrétise complètement, et il aurait attendu d'être bénéficiaire d'une mesure d'ouverture, pourrait-on dire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y aura une mesure d'ouverture en sa faveur ? Il aurait aimé être ministre, évidemment.
Oui.
Mais il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il aurait eu la capacité d'être ministre. Il n'a jamais été aux affaires, il n'a jamais occupé de poste officiel. C'était un polémiste redoutable. Est-ce qu'il avait sa place au gouvernement ? Ce n'est pas sûr. Alors il aurait aimé aussi être au Conseil d'État. Et au fond, il est assez juriste dans sa manière d'envisager les choses. Et les nominations étaient à peu près à la discrétion du gouvernement du pouvoir impérial à l'époque. Il aurait pu être nommé Conseil d'État, mais il ne l'est pas.
Et donc il est expédié aux États-Unis, donc le 15...
Oui, mais par sa faute, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait épousé une Anglaise et il était très proche des milieux anglo-saxons. Il parlait bien l'anglais et la littérature anglaise lui était extrêmement familière.
Il a même travaillé pour des journaux anglais.
Oui, pour le Times. Et il déclare, peut-être imprudemment, voilà, il y a un poste que j'aurais aimé occuper, c'est d'être ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Émile Ollivier, qui souhaite prendre une mesure en sa faveur, le prend au mot et le nomme ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire ambassadeur, mais ça n'était pas une ambassade à l'époque, ministre plénipotentiaire à Washington auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. La mesure fait scandale dans tous les milieux. Elle fait scandale dans les milieux de l'Empire, qui protestent en disant qu'est-ce que c'est que cette ouverture excessive à un de nos pires adversaires, qui a été le plus vif, le plus violent, contre le pouvoir impérial. Et scandale aussi dans les milieux de l'opposition, en disant qu'est-ce que c'est que ce ralliement injustifié, qui n'obéit à aucun point de vue général, et qui est contraire à toutes les tendances des partis politiques et des organes de presse d'opposition. C'est le réflexe habituel à toutes les mesures d'ouverture, on connaît cela. Ce n'est pas un phénomène qui est complètement dépassé.
Alors mettons des dates, donc il est nommé, parce que tout va aller très vite.
Ah oui.
Il est nommé donc le 15 juin 1870. Le 1er juillet, donc Thiers, dont vous avez parlé, désapprouve. Il est même reçu par l'empereur. Et il embarque donc pour les États-Unis le 1er juillet. Et le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse.
Eh bien, pendant qu'il est sur le bateau, survient un épisode qui est très important dans l'histoire de notre pays. C'est que la famille qui règne sur la Prusse, Hohenzollern, présente la candidature d'un de ses membres au trône d'Espagne. On voit là le sujet traditionnel de rivalité, enfin de, très sensible pour la France, de rivalité pour le trône d'Espagne. Ça a été des candidats provenant de la maison de Saxe-Cobourg au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet. Voilà qu'un Hohenzollern est candidat au trône d'Espagne. La France, bien que n'étant plus gouvernée par les Bourbons, considère cela comme une atteinte inacceptable à son indépendance et à son rayonnement en Europe. Et Prévost Pardol ne s'y trompe pas. Il a prédit, il avait un travail de prospective, n'est-ce pas, comme il y a maintenant une activité de prévision diplomatique qui est extrêmement importante. Il était un prévisionniste absolument remarquable. Ses intuitions se sont toujours confirmées. Il avait prévu que la politique très ambitieuse de Napoléon III en faveur des nationalités en Europe, qui a établi l'Italie comme réalité politique pas encore achevée, mais tout de même, par la campagne de 1859 et par le royaume d'Italie. Et immédiatement après, l'appui ou le consentement que Napoléon III a donné à la Prusse d'établir l'unité allemande contre l'Autriche et contre les autres petites principautés allemandes ou petits royaumes allemands était d'une folle imprudence. Et que cela allait inévitablement se retourner contre la France et que, dans cette perspective, après Sadova, Prévost-Paradol est le premier à dire qui a perdu la bataille de Sadova. Je rappelle que c'est une bataille entre la Prusse et l'Autriche et que c'est la Prusse qui a gagné et a battu l'Autriche. C'était la jeune monarchie prussienne qui fait ses premières armes et démontre la force de son armée. Prévost-Paradol est le premier à dire qui a perdu la bataille de Sadova. Eh bien, c'est la France, car l'armée prussienne va inévitablement se retourner contre la France. Et dès l'annonce de la candidature Hohenzollern au trône d'Espagne, Prévost-Paradol, le télégramme marchait, n'est-ce pas ? Et la dépêche est reçue sur le bateau qui l'emporte aux États-Unis. Et Prévost-Paradol comprend que ça y est, le mécanisme est enclenché et que ça va être la guerre. Il est fou d'inquiétude, il l'a prévu. Il a prévu que ça se passerait comme cela. Et qu'au lieu d'échapper, d'essayer d'éviter la guerre, qu'une France, disons, ivre de légende napoléonienne, provoquerait le conflit, irait au-devant du conflit, c'est ce qui se passe. Bismarck manœuvre, la dépêche d'Ems provoque l'irréparable, et la guerre est déclarée pendant qu'il est encore sur le bateau. Et quand il débarque dans son nouveau pays où il est ambassadeur, il n'est pas bien reçu. La guerre est déclarée et, curieusement, il considère qu'il est l'ambassadeur de Napoléon III. Thiers le lui a assez reproché en disant « Mais vous êtes fou, un ambassadeur est le représentant du chef de l'État, c'est-à-dire de l'empereur. Vous allez être l'ambassadeur de Napoléon III », ce qu'il est, en effet. Et il est très mal accueilli, à sa grande surprise. Pourquoi ? Parce que l'opinion américaine qui se forme à cette époque-là n'est pas favorable aux Français. Et elle est favorable aux Allemands, aux Prussiens. Pourquoi ? À cause de la présence des protestants, nombreuses et importantes, agissantes dans le milieu politique américain. À cause aussi de la guerre du Mexique, de l'équipée assez aventurée, disons, du Second Empire pour établir un trône au Mexique. À cause peut-être aussi du fait qu'une partie de la société française conservatrice a pris dans la guerre de succession parti pour les sudistes. Bien maladroitement, et sans connaître les réalités américaines, mais parce que c'était la position conservatrice. Et donc, les intérêts français ne sont pas du tout bien vus aux États-Unis d'Amérique à l'époque, et Prévost Paradol est mal reçu. Enfin, pas très bien reçu. Et il cherche des appuis, il ne les trouve pas. Il faut dire qu'il n'est pas diplomate, il n'a pas du tout le métier, il ne connaît pas les dossiers, et il est déçu par la manière dont il est reçu. Alors les choses tournent très mal, la guerre est déclarée, il se sent responsable pour avoir annoncé ce qui allait se passer, de s'être rallié, d'avoir déserté son camp juste au moment où il ne le fallait pas. Il se sent responsable d'avoir abandonné le journalisme, juste à une époque où il ne le fallait pas, et donc d'avoir accepté ce poste qui n'est pas un poste d'influence directe sur les choses à Paris, à une époque où il serait si utile à Paris dans le débat politique. Et alors, il déroule un processus que les psychiatres connaissent probablement bien, d'autoculpabilisation, de renfermement, de retour sur soi, et il ne se pardonne pas à son évolution d'avoir rallié l'Empire, il ne se pardonne pas d'être aux États-Unis alors que les choses se passent à Paris, et finalement, dans une spirale destructrice, il en vient à dire que la seule chose qui soit à sauver, c'est son honneur, et que la seule manière de sauver son honneur, c'est de se suicider.
Donc ce qu'il fait le 20 juillet, donc 1870,
voilà.
Donc au moment où il arrive, au moment où il est mal accueilli, comme vous le dites, et au moment où il prend conscience, où il se rend compte qu'effectivement...
C'est assez dramatique, évidemment, voilà. Il demande au chancelier de l'ambassade de l'accompagner pour aller acheter un pistolet, il en achète deux même, et finalement il se tire un coup dans le cœur et meurt aussitôt. Et le même bateau qu'il avait amené aux États-Unis d'Amérique remporte sa dépouille, alors que ces funérailles ont lieu le jour de la bataille de Reichshoffen. On ne peut pas imaginer de destin plus tragique.
Absolument.
Il est peut-être la première victime de la guerre de 1870, un suicidé politique. Il n'avait pas de raison de se suicider, c'était pour ses idées politiques, n'est-ce pas ? Un suicidé politique, il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas ? Et l'un des peu nombreux suicidés de l'Académie française, puisque moi je pensais qu'on en comptait 4, mais en réalité on en compte plus que ça. Parce qu'il faut rajouter ceux de l'Ancien Régime, et on peut considérer que Condorcet et Chamfort se sont publiés aussi, ce qui me ferait 6.
Condorcet, oui, pour autant qu'il se soit suicidé.
Voilà. Chamfort aussi, d'ailleurs.
Il est mort dans les geôles de la terreur.
Chamfort s'est suicidé en prison, et il en est mort après, sorti de prison. Mais enfin.
Alors je vous livre, parce que j'ai trouvé ça savoureux, donc ce que Albert Thibaudet, donc dans les années 20, dit de cette mort. Voilà. Et il trouve que cette mort, celle de Prévost Paradol, est absurde. Je cite Thibaudet pour bien montrer ce destin fracassé de Prévost Paradol. Sa situation, donc celle de Prévost Paradol en 1870, avait été la situation de Benjamin Constant, dit Albert Thibaudet, en 1815. Ce n'était pas le libéral qui s'était rallié à l'Empire, c'était l'Empire qui s'était rallié au libéralisme, ce que le pays avait approuvé par le plébiscite. Il eût été élu, poursuit Albert Thibaudet, il eût été élu à l'Assemblée nationale, sinon en 1871, tout du moins un peu plus tard, et il fut devenu une des plus grosses têtes de la République jusqu'en 1890 ou en 1900. Donc il y a bien effectivement, voilà.
C'est très bien vu, c'est très juste. Je le dis à la fin de la présentation biographique, je dis que le malheureux, s'il avait vécu 2 mois de plus, s'il n'était pas parti aux États-Unis, s'il avait vécu 2 mois de plus, comme tous ses collègues de l'opposition à l'Empire, eh bien, il aurait été ministre de Thiers aussitôt, avec Rémusat, son ami. Moi, je dis carrément, s'il n'était pas parti aux États-Unis, il aurait été membre de l'Assemblée nationale, élu en 1871, et il aurait été un des membres éminents de cette très brillante Assemblée, où il aurait été parfaitement à l'aise, car ses idées, alors, étaient majoritaires à l'époque.
Exactement. Ce qui est paradoxal, et on va venir à ses idées, ce qui est paradoxal, c'est que d'une certaine façon, s'il n'a pas eu l'assentiment de son époque, l'époque d'après, donc plutôt la Troisième République, va lui donner raison et appliquer, si ce n'est toutes ses idées, du moins un très grand nombre de ses idées. Est-ce que, si on regarde le livre, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, à partir de 1873-75, ses idées vont finir par aboutir à se transformer en des idées politiques qui vont s'appliquer sur le régime politique de l'époque?
Alors parlons de la France nouvelle, donc.
Absolument,
c'est un livre.
Exactement. Alors la France
c'est
nouvelle.
C'est un petit livre.
Voilà, mais
c'est
donc 1868.
Qui est disons, un livre complet rassemblant l'ensemble de ses idées politiques déjà souvent exprimées dans ses articles. Mais enfin, ce n'est pas du tout un recensement d'articles.
Absolument.
C'est un livre entièrement rédigé et assez factuel, assez concret, qui aborde toutes les questions de réforme politique, judiciaire, sociale, d'une manière générale, administrative, qui se posent à la France de cette époque, 1868. Et on peut dire en effet que ce sont des questions qui vont dominer la scène politique à partir de 1870.
Donc trois parties. Une première partie sur la démocratie, qui est un peu dans la filiation de Tocqueville. Une deuxième grosse partie sur le plan des réformes, ce qu'il faudrait faire. Et un ensemble de sujets, le droit de suffrage, les assemblées, l'Assemblée nationale, la Chambre haute, la responsabilité ministérielle, etc. Et puis troisième partie, plus petite, où il parle effectivement de l'opposition entre la France et la Prusse, notre histoire depuis 1789. Donc c'est plutôt la deuxième partie qui, effectivement, elle...
C'est ça, qui est programmatique, disons.
Voilà.
Mais la partie la plus intéressante, c'est la troisième, quand même, où il développe les vues les plus fulgurantes.
Absolument.
Sur l'évolution historique passée et à venir de notre pays. Mais en effet, la partie programmatique est importante. Mmh. Alors, le premier point, n'est-ce pas, son point de départ, mais qui a dominé tous les débats de l'Assemblée de 1871, c'est que pour lui, la forme du régime n'est pas l'essentiel. Le contenu, le fond des choses est ce qui importe. Et finalement, que ce soit république ou monarchie, n'est pas la question essentielle. Remarquons que dans la France nouvelle, il n'est pas question un instant de l'Empire. Je crois que même le mot n'est pas prononcé.
Oui, c'est comme si l'Empire n'existait pas.
Ça a été un grand choc et les partisans du pouvoir impérial ont été absolument choqués car ils s'expriment comme si l'Empire n'existait déjà plus. Donc, un livre d'opposition farouche. Et c'est bien la position de Prévost-Paradol, en effet. C'est qu'il dit la forme du régime importe peu, monarchie ou république, à condition que ce soit un régime libéral. Et donc, c'est la position, finalement, de la majorité de l'Assemblée nationale en 1871, sous la conduite d'un homme politique qui a peut-être conduit l'évolution. Ce n'est pas le principal c'est Thiers, évidemment. Mais l'homme qui a conduit l'évolution, ce n'est pas Thiers, c'est Albert de Broglie, qui a, d'une majorité monarchiste, avec une partie très importante légitimiste, et donc probablement pas parlementaire et pas libéral vraiment pour un rétablissement d'une monarchie légitime, Albert de Broglie a conduit l'évolution vers ce point de maturation où le contenu du régime est élaboré, on ne sait pas encore quelle forme il va avoir, il y a un prétendant, le comte de Chambord, son retour, son rétablissement sur le trône serait presque fait si lui-même voulait bien accepter le régime libéral qui a été préparé, qui se prépare, le comte de Chambord le refuse et finalement, en l'absence de prétendants, la même majorité se reporte sur la République et vote finalement les lois qui forment la Constitution de 1875.
Voilà, donc vous dites dans votre introduction, la Constitution de 1875 porte la marque de la France nouvelle.
Oui, c'est ça. Elles sont la traduction, sur le terrain opérationnel, des idées de Prévost-Paradol. Alors, quelles sont-elles, ces idées ? C'est un chef de l'État qui, monarque ou président de la République, peu importe, mais c'est un chef de l'État qui est une des têtes de l'exécutif et qui est en même temps chef de l'État irresponsable et au-dessus des partis. C'est la caractéristique du chef de l'État de la présidence de la République française depuis 1871. Mmh. Et c'est pour ça que la République a eu tant de mal à s'établir, c'est que pendant tout le XIXe siècle, la République était synonyme de retour à la violence de la Révolution et à ces régimes non libéraux, ces régimes autoritaires qui avaient été ceux de la République. Et petit à petit se forme l'idée que le président de la République peut très bien être un personnage parlementaire. Il s'agit de greffer le président de la République sur un régime parlementaire et d'en faire à la fois une tête de l'exécutif et en même temps un personnage irresponsable qui n'est pas directement chargé du pouvoir politique. C'est ce que dit Prévost-Paradol en long et en large et c'est ce que l'Assemblée vote. C'est un des points essentiels de la Constitution de 1875. Le second, c'est que cette tête de l'exécutif français, très originale, président de la République, il préside le Conseil des ministres. N'est-ce pas ? L'originalité extrême de la République française telle qu'elle a été établie à ce moment-là, ce qui continue, c'est qu'il y a un Conseil des ministres, il y a sous la Troisième République un président du Conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Il s'appelle président du Conseil des ministres. Maintenant, il s'appelle Premier ministre. Mmh. Mais enfin, c'est... Donc, le président du Conseil des ministres ne préside pas le Conseil des ministres. Mmh. C'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Voilà, le joint parlementaire entre la monarchie et la République se situe là. Et le passage se situe là, et cela dure de nos jours, c'est une formule très originale, mais qui a sa modernité, puisque après tout, cela rapproche le régime français du régime américain, où le président des États-Unis d'Amérique préside les ministres américains. Donc voilà, Prévost Paradol est l'inventeur de cette formule. Enfin, pas le seul, mais il est l'inventeur de cette formule.
Il y a un autre point sur lequel il insiste beaucoup, c'est le rôle de la Chambre haute.
Alors voilà, la
seconde
chambre.
Les deux chambres, donc voilà. Pour freiner un tout petit peu l'enthousiasme républicain de la République telle que vous l'avez indiqué, c'est-à-dire livrée à elle-même et aux fureurs de la République, donc avoir cet équilibre au sein des chambres pour faire en sorte qu'effectivement la Chambre haute puisse tempérer les ardeurs de l'Assemblée nationale.
Voilà, alors il considère que c'est une des clés de l'établissement d'un régime parlementaire en France qui n'a jamais été finalement accompli précédemment parce que la Chambre des Pairs n'était pas tout à fait la Chambre haute participant à l'évolution progressiste et libéral, et donc il préconise l'établissement d'une chambre dans le système démocratique, mais une chambre haute qui exerce une fonction bien particulière de modération, de sagesse, d'étude, et une chambre aussi des élus locaux. Mmh. Ce qui est très important, car une des thèses très fortes de Prévost Paradol, c'est la décentralisation. C'est d'en finir avec le centralisme parisien, qui a entraîné tant de secousses en France, et d'établir une démocratie répartie sur l'ensemble du territoire, avec une participation de l'ensemble du territoire à la confection des programmes politiques et à l'application des programmes politiques, ce qui est très nécessaire. Disons que sur ce point, des progrès ont été faits depuis. Il est intéressant de comparer, n'est-ce pas ? Jusqu'à présent, président de la République, chambre haute, régime parlementaire, c'est passé dans les faits. Assez vite, d'ailleurs, 1875, c'est voté, ça passe dans les faits, et la 3e et la 4e et la 5e République appliquent ce système. C'est une des permanences du régime français dont il faut se féliciter. La décentralisation, ça reste encore à l'état de devenir. Et Dieu sait que des progrès ont été faits, qu'on en parle beaucoup, que peut-être certains disent qu'on a été trop loin dans certaines manières, formes juridiques, peut-être, mais certainement pas dans la réalité sociologique. Et la réforme reste d'actualité, il faut retrouver le bon équilibre. C'est très difficile d'ailleurs, et Prévost Paradol a des pages tout à fait éclairantes sur ce sujet. Un autre point très important, c'est l'indépendance de la justice. Il y consacre de très grands développements, très fouillés, très intéressants d'ailleurs. Et là, ces thèses ne sont plus tout à fait d'actualité parce qu'elles partent de la situation de la justice sous le Second Empire. Et on s'aperçoit, à le lire, que c'est d'ailleurs un des passages très intéressants du livre, que la justice en France était encore dans un régime assez rétrograde, y compris en 1868, la prépondérance du pouvoir, le côté inquisitorial et punitif de la justice était très archaïque entre nous. Et peut-être moins dans les textes ou dans les institutions que dans la réalité des choses. Et alors il décrit par exemple la situation de l'inculpé au cours de son procès, qui était une situation d'inégalité intolérable à l'égard de tout l'appareil judiciaire, et l'inculpé n'avait pas la possibilité de se défendre. Et tout l'appareil judiciaire se donnait pour mission de punir l'inculpé parce qu'il fallait que la société exerce ses droits. Et alors il fait une analyse très en profondeur de ce sujet et qui est éclairée par l'exemple anglais. Et de ce point de vue, l'anglophilie de Prévost Paradol touche juste. La société anglaise a atteint beaucoup plus tôt un équilibre de la justice, de la puissance judiciaire dans l'ensemble de la société, beaucoup plus satisfaisant qu'en France. Alors, c'est un point de vue un peu dépassé, même tout à fait dépassé, parce que l'évolution depuis a fait que la justice en France a trouvé sa place au sein de la société. Mais enfin, ce qu'il dit est à lire très attentivement parce qu'il constate et donne des conseils encore qui sont intéressants et qui peuvent inspirer certaines idées d'évolution du système judiciaire. C'est un des points riches de ce livre.
Alors, il y a un autre point qu'il annonce, d'une certaine façon, c'est d'une certaine façon la séparation de l'Église et de l'État.
Oui.
Donc déjà, lui qui est effectivement plutôt anticlérical, mais qui reconnaît quand même le rôle social de la religion, ce que faisait aussi Tocqueville, qui considère qu'effectivement ce mélange des genres entre l'État d'une part et la religion d'autre part est mauvais, et donc il prophétise, annonce, souhaite effectivement que nous soyons plutôt dans le régime de séparation.
Son livre est extrêmement éclairant sur ce sujet-là. C'est un sujet qui le passionne, sur lequel il a pris des positions très originales et conformes ni à la tradition française, d'aucune partie, ni à la tradition anticléricale, ni à la tradition cléricale. Et ce sont des positions personnelles, mais qui sont très fortes et très bien vues, très justes. Son idée, c'est que la séparation de l'Église et de l'État serait bénéfique pour tout le monde.
Absolument.
Qu'elle va se produire, que la Révolution française, qui a établi la forme nouvelle des sociétés, contient en germe cette séparation de l'Église et de l'État, et que le point de maturation des choses fait qu'elle va se produire naturellement et pacifiquement, si on veut bien simplement être à l'écoute de cette question et de la voir arriver. Eh bien, c'est ce qui ne s'est pas produit. Curieusement.
Absolument.
Là-dessus, il a été démenti, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais son point de vue était juste.
Absolument.
Elle aurait dû se passer naturellement et pacifiquement. Et ça ne s'est pas passé comme cela. Et ça s'est passé de manière conflictuelle, évidemment. Et ça a été la première épreuve après celle de l'Assemblée de 1871 qui a échappé à cela et qui a établi un régime qui, après tout, aurait pu subsister. Mais non, les assemblées suivantes et la montée du radicalisme a fait émerger en France une conception différente sur laquelle nous continuons à réfléchir et à nous interroger, celle de la laïcité à la française.
Oui.
Je crois qu'on peut dire, en toute indépendance, de manière toute personnelle, que la laïcité à la française est une chose curieuse, à laquelle, pour ma part, je suis attaché. Mais je me dis simplement que nous sommes pratiquement le seul pays au monde à cultiver cette espèce de susceptibilité si forte d'une laïcité juridique, d'une laïcité formelle, comme si il y avait toujours un combat, un ennemi à combattre ou à abattre. Mais malheureusement, le pauvre ennemi n'est plus à combattre, il n'est plus à abattre. Il serait au contraire à conforter, à rétablir dans sa fonction, que pour ma part je rejoins complètement Tocqueville, n'est-ce pas, dans sa fonction sociale, dans sa fonction d'équilibre au sein de la société.
De contre-pouvoir.
Étant donné toutes les forces qui sont déclenchées sans frein ni capacité de se conduire elles-mêmes, eh bien, il s'agirait de réfléchir sur une séparation de l'Église et de l'État qui se fait de manière pacifique et approfondie et éclairée et qui se situe sur un terrain autre que celui de la laïcité. Le terrain formel de la laïcité, il est établi. Alors, que l'on dise il faut constitutionnaliser la loi de séparation de l'Église et de l'État, je ne veux pas faire de polémique, mais ça n'a pas de signification. Ça ne change rien, et en plus, ce n'est pas possible, parce que la loi de 1905, dont on a célébré les anniversaires avec beaucoup de solennité à l'Institut de France, et avec juste raison, nous avons célébré son caractère, justement, de contenu raisonnable, et non pas d'intangibilité formelle, parce que l'intangibilité formelle, elle est déjà dépassée. Elle n'a jamais été établie, et elle est déjà complètement dépassée. Elle est dépassée de bien des manières. D'abord parce qu'elle n'a jamais été complètement appliquée, et ensuite parce que sont apparues et sont développées en France d'autres religions qui ne bénéficient pas des mêmes. Donc voilà, de constitutionnaliser la loi de 1905, c'est le contraire de la solution.
Je renvoie nos auditeurs à un entretien que nous avons eu ici avec Émile Poulain.
Oui, parfaitement.
Dans un de ses livres, où il dit effectivement cette loi a été changée 50 fois depuis le moment où elle a été émise, et donc effectivement c'est une loi dont tout le monde parle sans bien savoir de quoi il parle, et effectivement, on s'y réfère sans bien la connaître et avec une diversité et des évolutions constantes.
Alors, de ce point de vue, ce qu'on peut dire simplement, c'est que la France nouvelle de Prévost-Paradol est une analyse très intéressante du point de vue parce qu'il ne se situe certainement pas d'un point de vue clérical,
absolument,
non plus d'un point de vue anticlérical, mais il est loin d'être clérical. Il est aussi, si on le veut, loin d'être anticlérical, mais il est d'un observateur éclairé des évolutions sociales en France et dans les pays d'Europe occidentale et en Angleterre. Et il se dit, qu'est-ce qui crée cette originalité française et de quelle manière ? Alors pour lui, il pense que cela va se produire pacifiquement.
Absolument, ce qui effectivement ne sera...
Ça viendra naturellement.
Ne sera pas le cas. Écoutez, terminons là-dessus et dites-nous juste, pour terminer... Pourquoi est-ce que, selon vous, effectivement, on peut considérer que ce mouvement de l'orléanisme, enfin, une des trois droites telles qu'identifiée par René Raymond, nous avons consacré une émission, effectivement, sur René Raymond et sur les trois droites de René Raymond, en quoi est-ce qu'effectivement, ce livre-là est une Bible, un auteur de référence, un livre de référence pour tous ceux qui, effectivement, souhaitent de regarder, d'analyser, éventuellement de promouvoir ces idées libérales qui, en France, n'ont pas toujours trouvé les échos que Prévost-Paradol aurait pu, effectivement, trouver en son temps et après.
Pour en juger, il faut se placer d'un point de vue très global, en englobant l'ensemble des forces à l'œuvre au sein de la société. Et l'intérêt de ce courant de pensée, l'intérêt de ces témoignages, c'est qu'ils se situent dans une perspective de progrès. La société doit progresser, elle peut progresser. Il suffit qu'elle fixe bien l'objectif et qu'elle s'en donne les moyens. Elle peut, elle en a tous les moyens. Tous les moyens se tiennent, d'ailleurs. Le progrès de l'instruction en est un. Le progrès du système électoral en est un second. Prévost-Paradol insiste beaucoup sur ce sujet. Et à la date où il parlait, évidemment, il y avait fort à faire. Et c'est fait maintenant. Donc le système électoral joue et est un élément essentiel. Mais il y en a bien d'autres aussi qui sont l'indépendance de la presse. Alors là aussi, Prévost-Paradol est extrêmement éclairant sur l'indépendance de la presse qui n'était pas établie sous le Second Empire et qui l'est maintenant complètement. Et là, toutes ses vues ont été réalisées. Il a des réflexions extrêmement précises sur l'indépendance de la presse, sur qui doit juger les délits de presse, quel est le juge de la presse et comment établir un bon juge de la presse qui garantira tous les intérêts en cause dans la société. C'est très intéressant, c'est extrêmement... Et peut-être encore à relire de nos jours, non pas pour envisager les réformes, mais simplement parce que les préoccupations sont là, elles sont très clairement exprimées. Et l'intérêt de ce mouvement d'opinion, c'est précisément de dégager la problématique, de dire d'un point de vue très serein, mais en même temps très éclairé. Ça suppose une grande culture historique et en même temps des comparaisons avec l'étranger, ce qu'on ne fait pas suffisamment en France. Une des leçons, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est que nous avons l'habitude de raisonner les problèmes de manière tout à fait hexagonale, franco-française, comme si les mêmes problèmes n'avaient pas été déjà étudiés et résolus dans d'autres sociétés proches des nôtres. Donc, le point de vue le plus général possible, le plus serein, le plus éclairé possible, pour dégager les meilleures solutions pour les problèmes sociaux, économiques, politique, de liberté, d'épanouissement de l'individu et des bases de la société, problème qui continue à se poser, pas les mêmes exactement, mais qui continue à se poser. Ô combien le débat de nos jours ne repose que là-dessus, sur les vrais problèmes de la société, mais les vrais. Et évidemment, la polémique électorale n'est pas le meilleur moyen d'aboutir à des solutions globales et éclairées, mais en tout cas, cela révèle les problèmes et on s'aperçoit que dans des circonstances comme celles que nous vivons, la présence d'analystes aussi éclairés que ceux du 19e siècle contribuerait à enrichir le débat et peut-être à convaincre aussi la société. Parce qu'enfin, une des croyances de Prévost-Paradol, il le dit, c'est que la société mérite d'être éclairée, elle aussi. Il n'est pas du tout un homme de l'élite qui se cantonnerait dans les élites, non. Il est issu d'un milieu qui est modeste et sa confiance dans le progrès englobe y compris le progrès de l'ensemble des catégories de la société qui doivent petit à petit parcourir le chemin vers la conscience politique et la vraie conception du progrès de la société. Et ça, ce dernier point est un de ceux qui est le plus absent de notre débat aujourd'hui. Il faut faire progresser dans toutes les catégories de l'opinion, la conscience, la nécessité du progrès de la société dans son ensemble.
Absolument. Monsieur De Bruyne, merci beaucoup. Donc, je renvoie donc à ce livre qui vient de reparaître, donc d'Anatole Prévost-Paradol, La France Nouvelle, avec une préface de vous-même. Et puis, je renvoie donc, parce que nous avons fait une émission sur ce livre-là, mais donc La Monarchie de Juillet, de vous-même, 1830-1848, qui est paru chez Fayard. Et j'espère qu'effectivement, avec cette émission et votre préface, la mode de Prévost-Paradol reviendra au-delà de la rue Saint-Guillaume, à peu près de tous ceux qui sont intéressés par effectivement ces prophètes de l'avenir et qui font confiance, parce que je pense qu'il y a ça fondamentalement, qui font confiance à la société elle-même et qui considèrent que le progrès est à l'intérieur de la société elle-même pour évoluer vers un plein épanouissement de la dite société. Voilà. Monsieur De Bruyne, merci.
Merci à vous.